c'est Patrick Dabas. Venez donc prendre l'air avec les ailes anciennes. Je vous y invite sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse. Bonjour à nos amis des petites histoires de la grande aviation. J'ai eu l'occasion de vous glisser, discrètement je crois, que j'étais depuis quelques années président des ailes anciennes Toulouse, fonction pour laquelle je n'ai pas sollicité dernièrement un renouvellement. J'ai donc laissé la place à un nouveau président il y a quelques semaines. Bien évidemment, j'en suis toujours membre et je participe largement à la marche de mon association. Comme tous mes collègues, je suis passionné pour la conservation du patrimoine aéronautique. À ce titre, nous récupérons des avions anciens réformés, c'est-à-dire qu'ils ont terminé leur carrière aérienne et qu'ils ne voleront plus. Mais cependant, ils demandent à être bichonnés pour pouvoir être exposés de façon attrayante pour le public, et ce n'est pas une mince affaire. Si certains d'entre vous suivent sur les réseaux sociaux ces sujets, dont ceux des ailes anciennes Toulouse, vous avez inévitablement connaissance d'autres associations travaillant dans le même sens. Toutes ces associations font leur possible pour communiquer et montrer au grand jour ce qu'elles font et le résultat de leur travail. On peut trouver sur Facebook ou Instagram de nombreuses communications dans ce domaine. Ceci pour vous dire que, actuellement, on parle beaucoup, entre autres rénovations, depuis plusieurs années, de la superbe restauration d'un Caudron Simoun. Il s'agit d'un petit avion monomoteur, emblématique des débuts de l'aviation civile, loisirs et affaires. Un des nombreux avions produits par Caudron, ce grand constructeur de la première moitié du XXe siècle. Les amis auditeurs qui suivent fidèlement mes chroniques n'ont pas manqué de remarquer, dans les histoires racontées, que ressortait ma quasi-addiction à parler de personnages, d'avions ou d'événements pas toujours très connus et même parfois totalement inconnus ou confondus avec d'autres. Une confusion éventuelle qui serait souvent due à la notoriété d'un autre pilote plus encombrant, socialement parlant. J'ai toujours voulu démontrer que l'on pouvait aisément les reconnaître comme héros et donc les qualifier ainsi. Et parmi les pilotes aviateurs, peu ou mal connus, les héros femmes ou hommes ne manquent pas. J'ai pu mettre en avant par exemple des pilotes de l'aéropostale, au-delà des plus notoires, qui ont été des intervenants essentiels dans l'aventure. L'insistance à les citer et à les mettre en évidence n'est évidemment pas une manière ou un risque de diminuer les qualités des pilotes les plus notoires. En me baladant dans les rues de Toulouse et notamment les rues nouvelles des nouveaux quartiers autour des anciennes pistes de Montaudran, j'ai pu mettre en avant des noms dont on a baptisé, à juste raison, certaines voies, rues, avenues, places, impasses, ronds-points. Malgré tout, les précisions et les renseignements concernant ces héros ne sont pas soulignés sur place. Et c'est bien dommage et frustrant. Évidemment, on ne serait plus devant des plaques à disposer à l'entrée d'une rue. Une information plus précise sur la personnalité donnant son nom à la rue consisterait à disposer de véritables pancartes. Et ce n'est évidemment pas possible à ce niveau et dans ce contexte. Est-ce donc pour me pousser à le faire ici dans mes chroniques ? Il faut donc aller plus loin et en parler autrement. Également, en écrivant ou décrivant l'un ou l'autre avion, j'ai pu insister sur son créateur, peu mis en valeur, sur un ingénieur de génie, sur un aérodynamicien dont on loue encore à notre époque les travaux et dont le talent et les recherches ont laissé des traces sur des véhicules d'aujourd'hui de toutes sortes et dont les formes et profils sont devenus des règles et même des lois incontournables. Une chose me frappe, c'est le fil que l'on peut dérouler en partant d'un fait, d'une femme ou d'un homme, d'un objet, notamment un avion, d'une découverte ou d'une trouvaille permettant de lancer une mise en scène de ces personnages ou de ces objets ou événements, puis d'enchaîner sur tout ce qui fait partie du paysage dans le contexte d'une époque. D'accord, c'est un peu compliqué dit comme ça, notamment en fonction de ce que vous-même êtes en train de faire en écoutant ce propos. Mais ce n'est pas du verbiage et mon but est simplement de développer ma démarche. Je vais prendre un exemple précis qui va me servir de fil pour parler en continuité de choses soit complémentaires, soit plutôt étrangères, c'est selon. Je vais prendre un aviateur, pas très connu dans le public, même si son patronyme peut être très connu, et peut faire encore partie de notre environnement matériel. Un pilote s'est illustré aux commandes d'un modèle d'avion lui aussi très fameux. Un tel avion de ce type, et vous verrez parfois avec plusieurs exemplaires successifs, a servi à de nombreux pilotes, hommes ou femmes, dont on pourra parler. Le dit avion a été équipé d'un type de moteur qui a servi sur beaucoup d'autres avions monomoteurs et même bimoteurs dans les différentes évolutions et versions. Et ce modèle d'avion s'est illustré dans des situations aussi multiples que différentes, glorieuses ou plutôt malheureuses. Vous allez vite comprendre. Après cette longue introduction, je vais enfin tirer le bout du fil, qu'on peut appeler rouge, de la pelote que je souhaite dérouler avec vous maintenant et dans les semaines qui viennent. Vous verrez qu'à partir de cette pelote et de ce fil, on a l'opportunité de recouvrir l'histoire de toute une période, de croiser des événements marquants, de rencontrer des femmes et des hommes, pas seulement dans le domaine de l'aérospatial, mais également effleurer des événements politiques, voire géopolitiques, qui ont accompagné nos sujets de l'aéronautique, les ont favorisés ou au contraire contrariés et parfois condamnés. Au début de cette chronique, j'ai cité la marque d'avion Caudron. C'est une marque glorieuse fondée en 1908 par deux frères, Gaston et René, grands animateurs des frères Wright américains. La marque qui a occupé, si l'on peut dire, le terrain tout le temps de la première moitié du dernier siècle jusqu'à son rachat par Renault, marque qu'il a continué à équiper deux moteurs. Un des modèles de début le plus célèbre a été le Caudron G3, que l'on repère facilement sur les photos de l'époque avec son train d'atterrissage constitué de deux jambes qui ont chacune deux roues parallèles. Et sa structure est remarquable et surtout remarquée du fait des nombreux mâts qui la constituent et qui sont reliés entre eux pour constituer un ensemble souhaité rigide, le faisant ressembler à une cage. D'ailleurs, il avait le surnom affectueux de cage à poule. C'était l'avion de début de la plupart des pionniers et les militaires français ne se sont pas trouvés en lui affectant, pendant la Première Guerre mondiale, des missions de reconnaissance puis d'aide au réglage des tirs et, un peu plus tard, à la photographie aérienne des théâtres de guerre. Tout de suite après la guerre, et pour ne citer que ces deux-là, ce fut l'avion de l'exploit de Jules Vidrine qui se posa sur le toit des Galeries Lafayette en 1919 et, bien sûr, le retentissant passage de la Cordillère des Andes par la fantasque Adrienne Bolland en 1921. Je vous situe la maison Caudron comme pivot, mais bien sûr, la production tant du G3 que de très nombreux autres modèles sera très variée et considérable, allant plus tard jusqu'à des bimoteurs de belles dimensions. Je vais donc me baser sur les avions de cette firme très fameuse des premières années du XXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Tous sont emblématiques, et parmi tous ces avions, j'ai cité il y a un instant la superbe restauration par une association dont le but est une remise en vol, et ensuite la reconstitution d'un challenge extraordinaire en forme de raid. Cette association s'appelle Renaissance du Caudron Simoun. Ce Caudron Simoun est un monomoteur monoplan, un des premiers avions plutôt confortables et performants dans cette catégorie, pouvant inciter au voyage et au raid dans cet exercice de nombreuses compétitions et records. Selon sa destination et son utilisation, il pouvait être équipé confortablement pour les voyages presque luxueux ou présenter au contraire des aménagements et installations pratiques bienvenus pour les raids de longue durée. Plus tard, il sera même la base d'une petite compagnie de transport de passagers. Ce Caudron Simoun et ses grands frères avant son arrivée vont nous permettre de survoler, permettez-moi cette expression, la période et les utilisateurs célèbres qui l'ont mise en lumière, avec plus ou moins de bonheur, mais en le révélant comme incontournable. Vous serez étonné de découvrir qu'à partir d'une famille d'avions servant de fil rouge, on peut mettre en valeur toute une période et intégrer de nombreux pilotes, tous autant célèbres ou au moins glorieux, qui ont utilisé cet avion pour accomplir des exploits et pourquoi pas les concurrents. Le Simoun, dois-je vous le dire, tient son nom à un vent fort du désert, vent chaud et sec, chargé le plus souvent de sable et qui souffle au Sahara, en Égypte et dans certaines régions du Moyen-Orient, suggérant par là même une idée de vitesse. Et pour ces avions, la vitesse était un challenge incontournable, signe de progrès et de gain de temps. Il fallait donc des moteurs puissants et de plus en plus des recherches et des essais permanents d'aérodynamisme. Alors, je vous propose, dès la semaine prochaine, sinon de monter dans un Caudron Simoon, du moins d'embarquer dans l'histoire de ces Caudrons, dont notamment ce Simoon, et traverser avec lui une période extraordinaire et une épopée fabuleuse qui vous fera croiser de nombreux autres avions et des personnages fabuleux. Rendez-vous donc et soyez au rendez-vous, c'est l'appel pour l'embarquement sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse. À la semaine prochaine donc pour d'autres avions et d'autres hommes.